Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le journal Pierre Veille, bonjour Pierre.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Aux États-Unis, à Minneapolis, quatrième nuit d'émeute après la mort de George Floyd. Cet homme noir étouffé par un policier inculpé et incarcéré. Mais la colère ne retombe pas. Les manifestations contre le racisme touchent plusieurs villes américaines. Le déconfinement chez nous en ce week-end de Pentecôte. Les parcs et jardins rouvrent, notamment à Paris, où l'on attendait avec impatience ce contact avec la nature. On ira au parc des Buttes-Chaumont. Il y a du monde. Donald Trump coupe les ponts avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, accusée de complaisance avec la Chine. Coup dur pour l'agence de l'ONU en pleine pandémie du coronavirus. Le second tour des élections municipales, un front républicain contre Louis Alliot à Perpignan et à Bastia. Tentative d'union des opposants aux nationalistes, nous serons en Corse. Des milliers de personnes dans les rues de Maubeuge ce matin contre le plan d'économie chez Renault. Une partie de l'activité de l'usine de Maubeuge pourrait être transférée à Douai. Et puis un des écrivains en lice pour le prix du Livre Inter, attribué le 8 juin. Aujourd'hui avec Eva Bettan, Monica Sabolo et Eden, paru chez Gallimard.
France Inter.
Dans le Minnesota, à Minneapolis, le policier impliqué dans la mort de George Floyd a été inculpé d'homicide involontaire et incarcéré. Ce policier avait plaqué au sol George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans. Après son arrestation lundi, il avait maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes, provoquant son décès. L'arrestation et l'inculpation de ce policier n'ont pas calmé la colère de la rue à Minneapolis, avec hier soir une quatrième nuit d'émeute, malgré le déploiement de 500 soldats de la garde nationale et l'imposition d'un couvre-feu. Sur place, à Minneapolis, notre envoyé spécial, Loïc Loury.
Les mains en l'air, ne tirez pas. Le slogan est à l'adresse des policiers et soldats déployés dans le sud de Minneapolis. Il est alors 20h, les bâtiments brûlés la veille fument encore et des centaines de personnes comme Jay comptent bien braver le couvre-feu. Quand ils nous blessent, nous devons rendre l'appareil, sinon quoi, ils nous tirent dessus et on reste là, ils ne changeront pas si on ne fait rien. Quelqu'un doit faire quelque chose. Malgré les appels de la police, impossible de canaliser une foule éparpillée. Les forces de l'ordre vont d'abord refluer avant que la situation ne dégénère vers 23h. Pillages, nouveaux incendies et la garde nationale mobilisée pour protéger un commissariat. Le maire de la ville supplie les manifestants de rentrer chez eux. Notre ville peut être tellement mieux que cela. Il n'y a pas d'honneur à brûler votre propre ville. Si vous avez un ami, un membre de votre famille qui est dehors, appelez-le, dites-lui de rentrer à la maison. Mais l'inculpation du policier à l'origine de la mort de George Floyd n'a pas eu l'effet attendu et des manifestations ont éclaté dans plus d'une quinzaine de villes à travers le pays. Minneapolis, Loïc Loury, France Inter.
En ligne avec nous, Grégory Phillips, notre correspondant permanent aux États-Unis à Washington. Bonjour Grégory.
Bonjour Pierre.
Grégory, Loïc Loury vient de le dire, cette vague de colère contre le racisme et les violences policières s'étend dans le pays, y compris chez vous, dans la capitale fédérale.
Oui, jusque tard dans la nuit, on a vu des manifestants crier leur colère sous les fenêtres de Donald Trump à la Maison-Blanche face à des agents des Secret Service parfois débordés. La Maison-Blanche a été bouclée, puis vous avez raison, cette colère s'étend dans tout le pays. Manifestations dans une vingtaine de villes hier soir, Washington donc, mais aussi Dallas, Atlanta, Des Moines, Portland, New York. Dans le quartier de Brooklyn, on a vu des échauffourées assez violentes et on compte une cinquantaine d'interpellations. À Détroit, Michigan, la police rapporte la mort d'une personne de 19 ans alors qu'un individu a ouvert le feu sur la foule. Et dans toutes ces villes, Pierre, le même slogan, I can't breathe, je n'arrive pas à respirer, les derniers mots de George Floyd lors de son interpellation lundi.
Et puis dans cette affaire, Grégory Phillips, il y a les déclarations, les tweets de Donald Trump qui ne vont certainement pas calmer les esprits.
Et notamment ce message dans lequel le président a qualifié les émeutiers de voyous et menaçait « quand les pillages commencent, alors les tirs commencent ». Dans la manifestation de Washington hier, une jeune femme me disait qu'elle était effrayée parce qu'elle qualifie d'incitation à la violence. Vous voyez, on n'est pas du tout dans un appel au calme et à l'unité, alors que dans le même temps, le prédécesseur de Trump à la Maison-Blanche, Barack Obama, appelait lui à partager la détresse de millions d'Afro-Américains.
Grégory Phillips en direct à Washington. Donald Trump, encore, il a mis à exécution sa menace de couper les ponts avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qu'il accuse de complaisance avec Pékin. Le président américain a annoncé hier soir mettre fin à la relation entre les États-Unis et l'OMS. L'Amérique, c'est le principal bailleur de fonds de l'Agence de l'ONU pour la santé, basée en Suisse. Il faudra compenser ce retrait américain pour maintenir l'activité de l'OMS, énorme machine avec 7000 employés présents dans le monde. À Genève, Jérémy Lanche.
Plus de 400 millions de dollars par an en moins, c'est ce qu'on appelle un trou dans la raquette. Alors comment l'OMS peut-elle combler le vide laissé par les États-Unis? Tous les regards se tournent vers la Chine. Pékin a déjà annoncé qu'elle verserait 30 millions de dollars en plus à l'OMS pour répondre au retrait américain. Sauf que la Chine part de très loin en termes de financement, avec presque 10 fois moins d'argent versé que les États-Unis jusqu'ici. L'Europe pourrait également faire un geste. Le ministre allemand de la Santé estime aujourd'hui que l'UE doit s'engager plus financièrement. Autre solution pour l'agence, c'est le recours aux fonds privés. L'OMS vient de lancer sa propre fondation pour diversifier ses sources de financement. Un lancement qui n'a rien à voir avec la décision de Donald Trump, assure l'OMS qui travaillait sur ce dossier depuis plus de 2 ans. Son patron a d'ailleurs déploré il y a quelques jours que 80% du budget de l'agence dépend de contributions volontaires associées à des programmes spécifiques et sur lesquels l'OMS n'a quasiment pas de droit de regard. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Retour en France, le début de la nouvelle étape du déconfinement en ce week-end de la Pentecôte qui s'annonce estivale sur une grande partie du pays. Les parcs et jardins rouvrent, notamment à Paris. La fin du bras de fer entre la mairie de Paris et le gouvernement qui refusait la réouverture des espaces verts dans la capitale depuis le 11 mai, première phase du déconfinement. Beaucoup de monde, par exemple, ce matin au Butte-Chaumont où vous vous trouvez, Timour Özturk. Bonjour Timour.
Bonjour à tous.
Vous êtes là-bas avec Gilles Gallinaro et on dirait un parfum de liberté retrouvé au milieu de la nature.
À voir les familles s'installer sur les pelouses au soleil, oui, les enfants jouent sous le regard de leurs parents. Fanny, 6 ans et demi, court dans l'herbe depuis ce matin, heureuse.
Oui, parce que depuis 2 mois, on n'a pas pu aller dans les parcs et voilà.
Sa maman, Julie, a préféré arriver tôt au Butte-Chaumont.
Pour éviter la cohue des jeunes pour les pique-niques et les apéros, et où là la distance sera impossible à respecter et où finalement on serait reconfiné sur nos nappes parce qu'on ne peut pas laisser les enfants bouger de la même manière s'il y a plus de monde.
Du monde il en arrive, des groupes assis sur l'herbe avec quand même beaucoup d'espace entre eux. Pierre est allongé avec des amis et une bonne provision de bière. Il prolonge sa fête d'anniversaire commencée hier soir pour ses 30 ans.
On voulait terminer notre soirée en beauté, donc on est là depuis 8h30 parce qu'on rongeait notre frein, on voulait absolument faire l'ouverture et pouvoir avoir la meilleure place du coin, donc on est super contents, en plus il y a plein de soleil, donc c'est top.
Pour faire respecter les gestes barrières, la police municipale patrouille à pied et à moto, des distributeurs de gel hydroalcoolique sont installés aux entrées, mais pas d'obligation de s'en servir, comme pour les masques, pourtant recommandés, qui ne sont portés que par une moitié de promeneurs.
Le parc des Buttes-Chaumont ouvert au public. Aujourd'hui, reportage de Timour Özturk avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Le 18-20 ce soir sur France Inter avec Claire Servageant. Quelles leçons tirer de la crise du coronavirus? On en parle à partir de 18h15 avec le philosophe des sciences Bruno Latour et l'infectiologue Odile Lenay. 19h20, au téléphone sonne. Produire et manger local, rêve ou réalité, le 01 45 24 7000, le standard sera à votre disposition dès 17h le 18-20 sur France Inter avec Claire Servageant ce soir. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce matin devant l'usine Renault de Maubeuge. Elles ont ensuite marché pour rejoindre l'hôtel de ville. Cette usine est à l'arrêt depuis hier pour protester contre la décision de la présidence du groupe de supprimer 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Une partie de sa production pourrait être transférée à Douai, à 70 km, ce que refusent les 2100 salariés du site de Maubeuge, MCA. Sur place, Willy Moreau de France Bleu Nord.
Ils sont plus de 8000 ici, sur le parvis de la mairie, amassés. Une scène absolument inédite. Ça montre à quel point MCA n'est pas une simple usine. C'est l'avenir de notre territoire, disent beaucoup de manifestants. Ils craignent tout simplement à terme une fermeture du site qui serait un désastre. Ici, en Sambre-et-Noix, un territoire déjà sinistré au niveau de l'emploi. MCA fait vivre directement 2000 salariés et leurs familles, mais aussi une dizaine de milliers d'emplois indirects. Voilà pourquoi ils sont si nombreux. Voilà pourquoi ils veulent continuer à se battre. Voilà pourquoi les syndicats ont appelé à la grève hier et ils comptent recommencer si aucun accord n'est trouvé la semaine prochaine.
Willy Moreau de France Bleu Nord. Les élections municipales auront lieu dans 4 semaines. Les candidats du second tour devront déposer leur liste mardi avant 18h. Les discussions sont dans la dernière ligne droite pour des fusions, comme à Bastia, où les nationalistes aux commandes de la ville depuis 2014 sont arrivés en tête au premier tour, mais leurs opposants sont en passe de réussir à s'unir. Reportage à Bastia, Cyril Graziani.
Jean-Sébastien de Casalta est arrivé en deuxième position le 15 mars avec 20% des voix. Cet avocat bastiais tente l'union contre le maire nationaliste dans une campagne qui va durer.
Nous avons commencé une discussion avec Jean-Martin Mondologne et Jean Zuccarelli. Il est de règle qu'entre le premier et le deuxième tour, il ne s'écoule que quelques jours. Là, nous aurons près d'un mois et c'est peut-être pour nous la possibilité de pouvoir expliciter le projet que nous aurons construit.
Dans le camp dit républicain, manquera à l'appel le cadet de cette élection, Julien Morgant, et ses 12%. Il appelle aussi ses adversaires à le rejoindre.
Effectivement, ceux qui ne voudront pas se mettre derrière ma candidature portent le risque de me faire perdre.
Une division qui pourrait profiter au maire nationaliste Pierre Savé, les fidèles de Gilles Siméogne, arrivés en tête le 15 mars avec 30% des voix.
La politique et l'arithmétique sont deux choses complètement différentes. On n'ajoute pas les voix des différents candidats si tant est qu'ils trouvent un terrain d'entente. Et non, au premier tour, on choisit, au second, on élimine. Nous, on a été choisis au premier tour parce qu'on a fini en tête. Et je pense qu'au second tour, les gens élimineront nos concurrents.
Pas si serein le maire sortant, car partout en Corse, beaucoup considèrent que si la citadelle bastiaise tombe, c'est tout l'édifice nationaliste qui s'effondrera au régional l'an prochain.
Cyril Graziani à Bastia et puis à Perpignan, nous vous l'annoncions ce matin sur France Inter avec Maxence Lambrecq. La candidate écologiste Agnès Langevine, arrivée en troisième position au premier tour avec 14,5% des voix, retire sa candidature pour faire barrage au candidat du Rassemblement National. Il fait figure de favori, c'est Louis Alliot. Il a obtenu 35,6% des suffrages. Elle invoque pour expliquer sa décision, je cite, un devoir républicain de salubrité publique et appelle à soutenir le candidat qui reste en lice face à Louis Alliot, le maire sortant Les Républicains de Perpignan, Jean-Marc Pujol. Les sports, le football en Europe, de nouveaux matchs du championnat d'Allemagne de football sont programmés aujourd'hui. En France, la Ligue 1 ne reprendra pas, contrairement aux autres grands championnats européens. Le Premier ministre Édouard Philippe l'avait annoncé le 28 avril dernier. Cette semaine, il a expliqué que cette décision avait été prise par les ligues et les fédérations, ce que conteste l'ancien ministre des Sports, le sénateur socialiste Patrick Kanner. Pour lui, le gouvernement a forcé la main du monde du sport. Patrick Kanner, interrogé par Jérôme Cadet.
C'est bien à partir de sa déclaration du 28 avril devant les députés que les ligues et les fédérations se sont pliées. Donc on n'aura pas laissé le choix, et je prétends, je persiste et je signe qu'il y avait des protocoles sanitaires qui étaient en travail, en préparation dans toutes ces organisations sportives, et qu'on aurait pu reprendre peut-être au mois de juin les compétitions dans des conditions sûrement extraordinaires. Bien sûr, sûrement à huis clos, par exemple, pour le championnat de foot. Mais très honnêtement, je préférais aujourd'hui que les Français puissent regarder à la télévision des matchs de Ligue 1 plutôt que des matchs de la Bundesliga, qui sont sûrement très intéressants. Mais pourquoi les Français ne pourraient pas aujourd'hui retrouver le goût du spectacle sportif au travers notamment de la télévision?
Voilà, avec Jérôme Cadet, l'ancien ministre des Sports, Patrick Kanner. Rendez-vous maintenant avec le prix du Livre Inter et un auteur en lice pour ce prix qui sera dévoilé le 8 juin. Eva Bétan est en ligne avec nous. Bonjour Eva.
Bonjour.
Eva, aujourd'hui gros plan sur le livre de Monica Sabolo, Eden, paru chez Gallimard. Disons que c'est la forêt qui devient un territoire symbolique de l'adolescence.
Il y a une histoire, une jeune fille a disparu, elle est retrouvée nue, traumatisée, muette. La narratrice est elle aussi une adolescente. Mais il y a, j'ai envie de dire, surtout une atmosphère, la forêt, où on peut croiser des créatures étranges, où les pères un jour vont faire un tour et ne reviennent jamais, laissant des enfants derrière eux. Une forêt avec un lac où l'on peut se baigner, mais aussi se faire agresser. L'atmosphère, c'est aussi sentir, ressentir le coin perdu, l'absence d'avenir. Et on a moins de chance encore si on est d'une femme. Et on a moins de chance encore si on appartient à une minorité. Ici, ce sont les habitants d'une réserve, car cela se passe sans que ce soit nommé précisément sur le continent américain, vraisemblablement au Canada. Monica Zabolo, ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à la jeunesse. Il y a dans ce livre le rapport à la nature, on va y revenir, mais j'ai envie de dire en permanence, sans cesse, mise en lumière, exacerbée par le lieu, des rapports de domination.
Oui, bonjour Eva. Alors oui, en effet, c'était un livre que j'avais envie d'écrire sur une domination qui s'exercerait à la fois sur les jeunes filles et sur la nature, et également sur les minorités, en effet. Donc il y a cette puissance verticale et menaçante, et ces jeunes filles et ces jeunes garçons aussi d'ailleurs, qui vont trouver dans la forêt un lieu de transformation, de courage, de passage à l'acte pour avec ce fil secret qui les relie à la nature.
Vous mettez cette notion de différence entre blancs et autochtones. On suppose que ce sont des Amérindiens qui sont dans la réserve, mais on a l'impression que c'est gravé dans la société, que c'est quasiment immuable. On sent le poids des différences.
Oui, c'est vrai que j'avais envie de quelque chose qui soit assez universel, dans le sens que ces adolescents autochtones, ce sont également, pour moi, la représentation de l'outsider, de la marge, de celui qui est immobile et qui est hors du système, avec ce que ça représente de fragilité et en même temps de capacité de mise en action, de mouvement et de... Donc, j'avais envie que cette idée de l'autochtone en tant que identité soit peut-être plus vaste et puisse parler à chacun de nous, dans le sens que cette sensation d'être immobile, puisque ces jeunes filles, elles sont au bord d'une route où les camions ne cessent de passer, où quelque chose semble aller quelque part, alors qu'elles sont contraintes de faire de l'autostop, qu'elles ne peuvent pas partir. Finalement, c'est quelque chose qu'on ressent chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, il me semble, à un moment de notre existence.
C'est-à-dire que vous situez cette histoire loin, dans un monde qui est étranger à la France, mais peut-être qu'en forçant, je veux pas dire forçant le trait, mais en appuyant, ça met en lumière des choses qui sont vécues par beaucoup plus de gens que ces cas par moments extrêmes, pensez-vous ?
Ah ben, c'était comme ça que je l'ai, quand je me suis plongée dans cette histoire, c'est comme ça que je l'ai envisagée, oui. Comme non seulement l'impuissance qui me semble tout à fait universelle et qui peut tout à fait s'appliquer à des situations en France, aussi bien l'impuissance par l'âge, l'impuissance par le fait d'être une femme ou une très jeune fille, l'impuissance parce qu'on est à la marge d'une façon sociale, économique, que l'on est dominé justement par un monde puissant, qui a de l'argent et qui tient les ficelles du pouvoir, un monde avide. Je pense que ça s'applique à beaucoup de choses que l'on vit ici, aujourd'hui. Une sorte de brutalité.
Qu'est-ce qui fait que vous allez ailleurs qu'en France ou en Europe? Qu'est-ce qui fait que vous flirtez avec une forme de fantastique, de superstition, de croyance, que vous choisissiez ce type d'univers romanesque?
Alors, il y a plusieurs raisons. Je crois que déjà, c'est vraiment mon attirance pour le sauvage, les grands espaces, une envie vraiment d'extraterritorialité et les grandes forêts canadiennes, humides, puissantes, mystérieuses, ça c'était un attrait. C'est aussi la possibilité justement peut-être de libérer l'imaginaire de quelque chose de plus transcendantal, de plus mystérieux en sortant de peut-être de mon cadre familier. J'ai la sensation de construire complètement un monde, d'être à la fois totalement libre et en même temps au plus près du réel. J'aime bien ce lieu-là.
Quand vous choisissez un lieu, est-ce que il est le départ ?
Ah oui, complètement, exactement ça. C'est étrange, ça part vraiment de la volonté d'écrire sur un lieu. Le précédent summer, j'avais envie d'écrire sur l'eau et sur un lac. Là, j'avais vraiment envie de cette forêt, de ce végétal, et presque comme d'un monde entier en soi, et l'envie d'écrire sur une bande de filles. Étrangement, je n'avais que ces deux idées-là. Mais le lieu est fondamental, oui. C'est presque un personnage.
Très bien. bien, voilà, c'était en direct avec Eva Bétan, Monica Sabolot pour son livre, en lice pour le prix du livre Inter, Eden chez Gallimard. Eva, donc, le 8 juin, les jurés du prix du livre Inter vont se réunir et choisiront
le livre. Non, ils vont se réunir le week-end précédent, le 6 d'accord. et le 7,
oui.
Et nous l'annoncerons à l'antenne dans la matinale du 8 juin, le nom du lauréat.
Parfait,
en
merci.
En sa présence et tout et tout.
Bien sûr, merci Eva Bétan, les couleurs du ciel, tout de suite, voilà, dans quelques secondes.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus, sur fondationdefrance.org.
On a rendez-vous avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Pas d'évolution sensible dans les conditions atmosphériques ce week-end, avec le maintien d'un soleil rayonnant sur la plupart des régions, avec des entrées maritimes fugaces et d'évolution toujours favorable dans le golfe du Lion. La persistance d'une certaine dose d'instabilité ce week-end sur les différents reliefs menant à l'averse, voire à l'orage. Les températures cet après-midi vont afficher 26 à 30 degrés sur une large moitié ouest, 22 à 25 du nord-est à la Corse, avec par exemple 22 à Langres et Bastia, 23 à Toulon et Nancy, 25 à Nîmes et Lyon, il est prévu 26 à Lille et Clermont-Ferrand, 27 à Paris, Biarritz et Limoges, 28 à Nantes et à Brest et une trentaine de degrés près de la Garonne. Demain, les valeurs vont grimper un peu plus haut dans le sud-ouest. Lundi, ce sera le tour des régions de l'est de rejoindre le clan des 26 à 30 degrés.